Bonjour Jean-Pierre Chevènement.
Bonjour.
Nous allons parler évidemment ensemble des causes de cette guerre de 14 et plus généralement du destin de l'Europe. Mais avant cela, je ne résiste pas à vous demander si vous ne vous retrouvez pas un peu, en quelque sorte, dans la description que Proust fait de Monsieur Bontemps. Vous avez longtemps été tenu à l'écart, si je puis dire, par un certain nombre de penseurs de l'ordre. Et aujourd'hui, vous avez tendance peut-être, parce que vous défendez la nation et la souveraineté, à leur paraître plus sympathique.
Mais vous savez, je défends toujours la paix. Je ne suis pas un parangon de l'ingérence dans les affaires d'autres puissances. Je pense être assez fidèle à moi-même. Je pense qu'il ne faut pas confondre les patriotes et les nationalistes.
Voilà.
Et Clémenceau, qui était un Dreyfusard, était aussi un patriote. Il l'a toujours été. Et je pense qu'il vote la loi de 3 ans, comme Peggy était à la pointe de l'anti-Dreyfusisme, du Dreyfusisme.
Tout en étant très.
Et
patriote,
à partir de 1905, après le coup de Tanger, il devient sensible aux patries charnelles et il dit que le spirituel s'enracine dans le temporel.
Nous nous retrouvons dans un instant pour évoquer les racines de cette guerre de 1914.
Nous sommes au cœur de l'histoire des origines de la guerre 14-18 avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jean-Pierre Chevènement, sénateur de Belfort et ancien ministre, auteur de 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire aux éditions Fayard.
Alors, vous savez à quel point, Céline, je suis sensible aux grandes fresques historiques, à l'histoire comparée, à la philosophie de l'histoire, etc. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans l'ouvrage de Jean-Pierre Chevènement, et c'est devenu suffisamment rare pour être souligné et salué, car malheureusement, un très grand nombre des ouvrages d'histoire qui paraissent actuellement sont très ancrés sur un sujet particulièrement circonscrit, et souvent on a l'impression qu'on tourne un peu en rond sur une même question. Vous ouvrez de vastes horizons, vous retracez de vastes perspectives, Jean-Pierre Chevènement, et grâce à vous, on est en droit, à la fin de la lecture, de comparer la situation à la veille de 1914 avec celle que nous vivons aujourd'hui, pour des raisons d'hégémonie sur lesquelles nous reviendrons vers la fin de cette émission, si vous le voulez bien. Revenons, pour commencer, à 1914. J'ai ouvert mon récit tout à l'heure par un léger portrait du Kaiser Guillaume II. On parle beaucoup de Guillaume II dans ses pages, bien entendu. On se rend compte, lorsqu'on le connaît un peu mieux, qu'il n'était pas si belliciste qu'il le paraissait. Il faisait beaucoup de rodomontades, beaucoup de grands discours, mais finalement, il avait peur de la guerre, à titre personnel.
Il était cyclothymique. Il a tantôt donné son accord au plan de guerre préventive dès 1912, par exemple, selon le témoignage de l'amiral Müller, qui était un de ses proches. Et à d'autres moments, il envoyait des télégrammes à Nicolas II pour lui dire « Nous pouvons ensemble, mon cher Niki, éviter cette guerre ». Donc, qui était le véritable Guillaume II, on ne le sait pas très bien.
Ceux qui, en revanche, avaient un point de vue très ferme et qui n'en ont jamais changé, ce sont ceux qui gravitaient autour de lui. C'est le haut état-major, ce sont les cercles berlinois.
Il est certain que les décideurs de l'Allemagne impériale, c'est-à-dire le chancelier Bethmann Hollweg, son ministre des Affaires étrangères von Jagow, et surtout l'état-major à l'époque Moltke, mais aussi ceux qui l'entouraient, Falkenhayn, Tirpitz, d'autres, étaient très influencés par un courant, le pan-germanisme, qui s'était développé.
Il faut expliquer, oui, ce qu'est le pan-germanisme.
À partir de 1890, disons que quand Guillaume II est arrivé au pouvoir, il a congédié Bismarck, vous l'avez rappelé, et Bismarck avait une politique d'équilibre et de sécurité continentale, donc il était partisan de l'alliance des trois empires, Allemagne, Autriche, Hongrie, Russie. Il isolait la France, donc voilà, c'était une politique qui était assez judicieuse. Et il se moquait des colonies, n'en voulait pas, considérait qu'une colonie en Afrique ne valait pas les os d'un seul grenadier poméranien. Mais quand il a été congédié, on a vu s'exprimer la nostalgie de l'empire colonial. Certains courants d'opinion en Allemagne disaient « mais la Grande-Bretagne, la France se sont taillés d'immenses empires ». L'Allemagne a besoin d'avoir sa place au soleil. C'est ce qu'exprime dans un discours de 1897 le chancelier von Bülow. Et il me semble que dans le pan-germanisme, il y a deux courants, ceux qui veulent un empire colonial en Afrique et ceux beaucoup plus graves qui veulent un empire colonial en Europe, en refoulant les Slaves, les Russes, jusqu'à la Baltique et à la mer Noire, et en créant un empire.
Et ceux-là n'ont pas fini de faire parler d'eux, évidemment.
Et ceux-là n'ont pas
bien
fini.
Bien après la Première Guerre
bien
mondiale.
Bien entendu, parce que les germes du nazisme, ils sont présents l'avant 1914, il faut le dire. Toutefois, et permettez-moi de le dire, si je m'amuse à écouter Margaret Macmillan décrire ce qu'était l'arrière-plan culturel de l'avant 14, je ne suis absolument pas d'accord avec elle.
C'est bien pour
je
ça
pense
que...
qu'elle noie le poisson et qu'elle oublie que dans la première mondialisation libérale, dominée par la Grande-Bretagne, il y a un patron, un hégémon, qui fait respecter les règles du jeu, que d'ailleurs elle a établi elle-même. La Grande-Bretagne est maîtresse des mers, son empire représente le cinquième de la population mondiale. En Europe, elle est fidèle à sa politique traditionnelle, elle veut garder les mains libres et elle veut établir l'équilibre des puissances. Ce que ne veut surtout pas la Grande-Bretagne, c'est qu'une puissance prenne l'avantage et parvienne à la domination continentale.
Elle avait montré du temps de l'époque napoléonienne déjà.
Et voilà, et là est le vrai ressort de la guerre de 1914. Bien entendu, l'Allemagne commet des erreurs considérables. D'abord, carte blanche donnée à l'Autriche-Hongrie pour mater la Serbie. Ensuite, elle déclenche une guerre préventive, soi-disant contre la menace russe, mais elle se tourne d'abord vers la France.
Oui, c'est un paradoxe.
Et alors, c'est un paradoxe qui montre les limites de l'explication par la Russie. Et elle se rue à travers la Belgique, violant un traité de neutralité dont l'Angleterre est garante. Mais la raison pour laquelle la Grande-Bretagne va intervenir, c'est que elle n'accepte pas plus en 1914 la domination de l'Europe tout entière par l'Allemagne impériale qu'elle n'a accepté un siècle auparavant la domination de l'Europe par l'Empire napoléonien. Donc ce sont exactement les mêmes ressorts. Là est l'explication véritable de la guerre de 1914.
Et les Allemands se sont aventurés sur les mers de manière très dangereuse aux yeux de la Grande-Bretagne, bien entendu.
Alors, c'est ce qui a l'armement naval. C'était l'inquiétude allemande, c'est que sous l'impulsion sous l'impulsion de l'amiral von Tirpitz, l'Allemagne avait un programme d'armement naval qui, à terme, menaçait la suprématie maritime britannique, qui était le ressort de sa puissance mondiale. Donc voilà, l'Allemagne a commis deux erreurs, l'Allemagne impériale a commis deux erreurs. Elle a énormément exagéré la puissance russe, mais on le fait toujours aujourd'hui. Et d'autre part, elle a sous-estimé les réactions de méfiance qu'elle allait susciter chez les anglo-saxons. Hein. Je ne parle pas de la France, la guerre de 1914-1918 n'est pas une guerre franco-allemande. Elle est une guerre d'abord entre l'Allemagne impériale et l'Empire britannique pour l'hégémonie mondiale. Donc, il faut comprendre cela.
L'hégémonie au sens économique et commercial, essentiellement.
Au sens économique, commercial, mais aussi militaire. C'est-à-dire que la grande puissance, c'est l'Allemagne, ou en tout cas l'Allemagne veut bien partager son hégémonie avec la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne, elle, ne le veut pas.
Alors Il y a deux grandes explications toujours avancées et que vous battez en brèche. La première, c'est le nationalisme fervent des peuples, en quelque sorte. Vous pensez que les nations ne sont pas en cause dans cette affaire, ce sont leurs dirigeants qui gèrent cette affaire. C'est bien ce que j'ai compris.
Bien entendu, la description que fait Margaret Macmillan est amusante. Il y a effectivement cet arrière-plan culturel, un certain darwinisme social,
une exaltation.
Mais chez les élites, ce n'est pas vrai du tout dans les peuples. Et tous les historiens aujourd'hui constatent que les peuples étaient pacifiques, que la mobilisation en France s'est faite certes avec une grande détermination, mais par des gens qui faisaient leur devoir. Il n'y avait pas cet enthousiasme qu'on a décrit. Il y a eu quelques petits épisodes, mais tout à fait mineurs. Et je dirais que les Allemands eux-mêmes, on leur avait fait croire qu'ils étaient menacés et même attaqués par la Russie, et qu'il fallait se défendre contre cette puissance autocratique. Donc il y avait la vieille russophobie, héritée de Marx d'ailleurs, à l'époque où la Russie tsariste réprimait le printemps des peuples, Kossuth, etc. Donc tous les peuples, au fond, étaient de bonne foi. Et ce ne sont pas les nations nations qui ont entraîné la guerre. Ce ne sont même pas les nationalismes, c'est un étroit cercle de décideurs, et je le situe malheureusement à la tête de l'Allemagne impériale, du Deuxième Reich. Ce sont des décisions hâtives, imprudentes, qui allaient contre l'intérêt de l'Allemagne elle-même. Car quand on regarde la mondialisation libérale d'avant 14, on voit que l'Allemagne croît très vite. Elle triple sa production quand l'Angleterre double la sienne, que la France n'augmente sa production que d'un tiers. Et c'est cette surpuissance économique que nous constatons encore aujourd'hui de l'Allemagne qui lui assurait en quelque sorte une domination pacifique de l'Europe. Donc l'erreur pour l'Allemagne, qui était la puissance montante, a été de déclarer une guerre où l'Angleterre s'est engouffrée, mais à la surprise allemande, et n'oubliez pas qu'il y avait ce chant de haine contre l'Angleterre en Allemagne dans les années, enfin en 1914, au mois d'août 1914, parce que les Allemands considéraient que l'intervention de la Grande-Bretagne était une trahison à leur égard en tant que peuple germanique
qui
avait tout à fait le droit d'avoir sa place au soleil.
Oui. La deuxième grande explication, c'est le jeu des alliances qu'on apprend aux écoliers et dans les écoles, bien entendu, la triple entente contre la triplice, etc. Ce jeu d'alliance, nous dites-vous, n'est que mécanique, il n'explique pas le fond de l'affaire.
Oui, la mécanique transmet le mouvement, mais elle n'est pas à l'origine du mouvement. Et je dirais que la France est prise dans une espèce d'engrenage. Il y a un engrenage qui se met en place. Le gouvernement français était pacifique. Il avait ordonné aux troupes françaises de se reculer à 10 km de la frontière. Le premier mort de la guerre de 1914, c'est dans le territoire de Belfort. C'est le caporal Peugeot à Joncheret, à 10 km de la frontière d'alors. Et il y a un lieutenant de Houlan, Maillère, qui est également tué dans ce premier combat qui date du 2 août, c'est-à-dire la veille de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France.
Et c'est le sénateur de Belfort qui vous le dit.
Ludwig van Beethoven avec un extrait de l'hymne à la joie. Nous sommes au cœur de l'histoire des origines de la guerre 14-18.
Et de l'Europe. D'où le petit clin d'œil à Beethoven.
Et oui, avec vous Franck Ferrand et votre invité Jean-Pierre Chevènement, sénateur de Belfort et ancien ministre, auteur de 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire aux éditions Fayard.
Alors justement, il y a pas mal de questions d'auditeurs. Jean-Pierre Chevènement, je vous propose d'y répondre rapidement avant de poursuivre notre conversation. Dominique nous demande, nous conseille en tout cas pour restituer et comprendre le climat d'avant 14, le remarquable ouvrage de Stefan Zweig, le Stefan Zweig comme on dit, le monde d'hier. C'est vrai que grâce à un certain nombre de ces intellectuels, on peut mieux saisir quel était l'état d'esprit, encore une fois dans les élites comme vous le disiez.
Alors, il faut se rappeler que Stefan Zweig était en vacances en Belgique quand les prodromes de la guerre se sont annoncés. Il a pris le dernier train pour l'Allemagne. Il était effrayé de voir l'avancée de l'armée allemande. Il a rejoint l'Autriche-Hongrie. Mais lui-même, il faut le dire avec tout le respect qu'il mérite, dans les premiers temps, disons les deux premières années de la guerre, a participé quand même à un certain enthousiasme, unanimisme derrière Franz Josef et la défense de la double monarchie. C'est au bout de 2 ans qu'il a rejoint la Suisse, Romain Rolland, et qu'il est devenu un intellectuel pacifiste au-dessus de la mêlée. Celui qui a vraiment été au-dessus de la mêlée dès le départ, qui s'est déclaré comme tel, et il était d'ailleurs dans une situation difficile, c'était Romain Rolland qui se trouvait en Suisse, et qui quand même critiquait les destructions opérées par les armées allemandes à Louvain ou à Reims. Vous lisez ses livres, c'est très intéressant. Mais je crois que il faut voir que beaucoup de choses qui ont été écrites sur la guerre de 1914 ont été écrite après. Et sur le moment, prenez quelqu'un comme Thomas Mann, il est très belliciste. C'est après qu'il va faire sa conversion extrêmement sincère, qu'il deviendra un parangon de l'antinazisme. Mais sur le moment, il faut bien voir qu'il y avait ce climat que décrit très bien Margaret Macmillan, qui est au fond un certain une vitalisme.
De course à la guerre, oui.
Alors, course à la guerre, résignation peut-être plutôt à la guerre, oui. Parce que personne ne voit, et les dirigeants sont évidemment plus coupables que les autres, que la guerre va être longue.
On a totalement mésestimé cet aspect-là.
Parce que les Allemands pensaient en avoir fini de la France en 6 semaines, ah oui. En envahissant
la Belgique. C'était le plan von Schlieffen.
C'était le plan von Schlieffen, élaboré dès 1905, même avant. Et la Grande-Bretagne, évidemment, est intervenue aussi pour empêcher que la France s'effondre. Et les Russes ont attaqué en Prusse orientale dans des conditions d'impréparation tout à fait évidentes. Ils ont subi une défaite à Tannenberg, que leur a infligé Hindenburg, mais c'était pour venir au secours de la France. Et d'ailleurs, un corps d'armée a été distrait du front occidental vers le front oriental, où les Allemands n'avaient maintenu que des troupes de couverture. Donc, il faut bien voir que personne n'envisageait une guerre longue, personne n'envisageait les ravages épouvantables de la guerre, de l'artillerie notamment, qui est responsable des deux tiers des blessés et des morts. Ce carnage, 11 millions de morts, personne ne l'avait envisagé.
Justement, c'est Patrick qui nous pose une question sur les industriels. Il parle de Basil Zaharoff, évidemment, entre autres, mais ces industriels qui ont été aussi beaucoup accusés d'avoir poussé à la guerre.
Il est certain qu'en Allemagne, ThyssenKrupp pousse à la guerre, même Rathenau dans les premiers temps, qui sera assassiné par des nationalistes. Après la Première Guerre mondiale, Rathenau est aussi du parti belliciste. Et je pense que, bien sûr, cela existe. Mais fondamentalement, je pense qu'il faut revenir aux véritables responsables. Parce que la guerre a été décidée par un très petit nombre d'hommes, et que les autres n'ont fait que suivre les ordres reçus. Il y avait des fascicules de mobilisation. Ils ont fait leur devoir partout, mais ce ne sont pas les nations qui se sont jetées furieusement, non, les unes contre les autres, pas du tout.
Est-ce que cette guerre aurait pu être arrêtée par un très petit nombre d'hommes? C'est Bill sur Twitter qui nous demande quel aurait pu être le rôle de Jean Jaurès ou de Caillaux, dont nous parlions il y a quelque temps.
Il n'était pas en position décisionnaire. Jaurès ne pouvait rien, parce que la France n'était pas non plus en position décisionnaire. Ceux qui auraient pu arrêter la guerre, c'était les Allemands, les Britanniques, s'ils avaient imposé une médiation. Et les Britanniques l'ont proposé, les Allemands l'ont rejeté, une médiation entre l'Autriche-Hongrie et la Russie.
Alors il y a eu, oui, un certain nombre de tentatives, même de paix séparée, etc. On va pas entrer dans
après,
tout.
Après, je parle d'une médiation avant.
Avant qu'elle ne soit déclenchée.
Avant que la guerre soit déclarée. Alors ensuite, il y a en 1917, la tentative de Charles Ier, qui avait succédé à Franz Josef en Autriche-Hongrie, mais c'était voué à l'échec.
Alors, nous n'allons évidemment pas entrer dans la guerre elle-même. Ça n'est d'ailleurs pas le propos de votre ouvrage, puisque, encore une fois, vous comparez la situation, ce que vous appelez la mondialisation d'avant 1914, avec une autre mondialisation, celle que nous vivons aujourd'hui. L'hégémone, le patron, comme vous disiez tout à l'heure, avant 14, c'était la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis.
Alors, l'hégémonie a franchi l'océan. Les nations européennes ont été discréditées, injustement d'ailleurs, dévalorisées, ce qui fait qu'on peut construire une Europe technocratique sans problème, puisque les nations n'ont plus leur mot à dire. Aujourd'hui, effectivement, ce sont les Américains qui sont à la manœuvre, ils le sont depuis longtemps. Mais la première mondialisation a fait surgir l'Allemagne impériale, la deuxième mondialisation fait surgir ce qu'on appelle les émergents, et au premier desquels, la Chine. La Chine qui a décuplé sa production.
Joue un peu le rôle que jouait l'Allemagne face à la Grande-Bretagne ?
Elle joue un rôle, je dirais, elle a développé sa production beaucoup plus vite que l'Allemagne impériale. Elle a décuplé sa production en 20 ans. Elle aura la même production que les États-Unis en 2020. La Chine, c'est 1400 millions d'habitants, c'est un renversement complet du monde. Et avec la Chine, il y a beaucoup d'autres pays émergents, donc c'est un basculement du monde dont il faut avoir idée.
Basculement dont les États-Unis sont les premiers à avoir tiré les conséquences, du reste avec un repositionnement, avec un changement de centre de gravité de leurs intérêts et de leur système de défense.
Exactement, ils ont opéré le pivotement, comme ils disent, de leur flotte, qui majoritairement est passée de l'Atlantique au Pacifique. Ils ont une stratégie commerciale visant à isoler la Chine, le partenariat transpacifique et le partenariat transatlantique. Disons qu'il y a la volonté de contenir la Chine, c'est ce qu'on appelait la politique de containment, hein, et je dirais qu'il faut être très prudent dans cette période. Et moi, je l'ai dit toujours aux dirigeants chinois quand je les rencontre, faites très attention parce que vous savez, nous avons une expérience, nous, la vieille Europe. Hein, il ne faudrait pas que vous la renouveliez. Bien sûr, vous avez légitimement le droit de reprendre la place qui était la vôtre au début du 19e siècle. Mais suivez le conseil de Deng Xiaoping avant de traverser le fleuve. Tâtez le fond de la rivière pour savoir où sont les pierres.
Vous pensez qu'il y aurait un pan-germanisme à la chinoise, d'une certaine manière, en gestation quelque part du côté de Pékin ?
Il y a un nationalisme chinois. Le Parti communiste, aujourd'hui, est un parti nationaliste. Il a hérité de toute l'histoire de la Chine, de l'Empire et du Kuomintang. Donc, c'est un parti qui reste communiste à certains égards, mais qui est d'abord un grand parti nationaliste. Je pense que la Chine ne vise pas l'hégémonie mondiale. Elle est très soucieuse de trouver des codes. C'est difficile parce que c'est une civilisation qui n'est pas la civilisation occidentale. C'est une autre civilisation millénaire qui a ses références, Lao Tzu, Confucius, etc. C'est un autre monde, il faut le comprendre et il faut trouver des compromis pour que la montée très rapide de la Chine n'induise pas des troubles qu'on ne pourrait contrôler. Et c'est toujours possible, vous le voyez en mer de Chine, avec les querelles autour des îlots, Shenkaku, etc. Ça peut dégénérer. Et les Américains ont quand même formé une alliance implicite du Japon à l'Inde, en passant par les Philippines, l'Indonésie, le Vietnam, pour contenir la menace chinoise.
Finalement, la Grande-Bretagne voulait défendre son hégémonie mondiale et ce sont les États-Unis qui ont bénéficié de la Première Guerre mondiale. Ils en sortent au premier rang, ils deviennent la nouvelle grande puissance, même si la Grande-Bretagne restera une grande puissance, au moins jusqu'en 1940. Est-ce qu'on peut dire que la Première Guerre mondiale n'a pas été bien résolue, que le traité de Versailles, et au-delà du traité de Versailles, que l'ensemble des négociations de paix constitue un échec à vos yeux, Jean-Pierre Chevènement?
Ceux qui disent cela comme cela formulent une analyse superficielle. La grande faiblesse du traité de Versailles, qui était d'abord un traité politique qui visait à redonner à un certain nombre de nations d'Europe centrale et orientale leur liberté, la grande faiblesse du traité de Versailles, c'est l'absence de soutien américain. Les Américains n'ont pas ratifié le traité de Versailles, étaient rejetés à deux reprises par le Sénat. Wilson a été battu. Les garanties que Wilson avait données à Clémenceau et qui avaient arrêté l'armée française le 11 novembre 1918, ces garanties sont tombées à l'eau et nous sommes retrouvés tout seuls, totalement abandonnés, hein, sans notre allié russe. Sans l'aide américaine, puisqu'il fallait payer rubis sur l'ongle, en 1939-40, avec des Britanniques qui se préparaient déjà à livrer la bataille d'Angleterre, parce qu'ils estimaient que la bataille de France était perdue. Alors je voudrais relativiser aussi l'effondrement de 1940. La France était toute seule, elle était divisée contre elle-même aussi. Il faut le dire, c'est la racine peut-être de cet effondrement.
Jean-Pierre Chevènement, 1914-2004, l'Europe sortie de l'histoire, avec un point d'interrogation, c'est édité chez Fayard. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement de nous avoir fait profiter de vos lumières et de votre amusement envers cet autre ouvrage dont je me suis servi pour mon récit, Vers la Grande Guerre, comment l'Europe a renoncé à la paix de Margaret Macmillan, c'est édité chez Autrement. Et puis si vous êtes amateur de ces grandes perspectives, de ces études générales, de ce que Jean Giraudoux appelait le tracé des grues volantes, et des races, je vous signale l'apparition du numéro 142 de la revue Politique Internationale de Patrick Vajman, où les plus grands experts mondiaux sont constamment amenés à se prononcer. Merci beaucoup.